RCF.
Nous allons poursuivre et conclure ces entretiens, Jérôme Moreau, toujours en nous appuyant sur les textes de Saint Paul pour évoquer l'Esprit-Saint, la manière dont il en est question dans ces textes. Il est aussi très important de souligner la façon dont Saint Paul nous parle des premières communautés, de ce qu'aujourd'hui on appelle l'Église, que on peut dire de cette façon dont il parle de la vie des communautés.
Donc c'est un point très important. Paul est surtout un fondateur de communautés, c'est-à-dire son œuvre d'apôtre et de faire croître des communautés de premiers chrétiens. Et c'est très important, ce qu'on parlait hier de questions de morale ou moralisatrice, etc., c'est-à-dire d'une dimension individuelle de l'existence. Et pour un chrétien, il n'y a pas juste cette dimension purement individuelle, c'est-à-dire il y a les relations interpersonnelles que nous avons avec famille, amis, milieu professionnel, etc. Mais il y a une communion particulière qui est la communion dans l'Église. Et l'Esprit est très important à ce niveau-là pour Paul, pour que tous ceux qui se reconnaissent comme enfants adoptifs du Père sachent se reconnaître également comme frères.
Qu'est-ce que c'est que cette communion dans l'Église ?
C'est un ensemble de personnes qui se reconnaissent ensemble appelées, qui reconnaissent le même Dieu, le même Christ, le même Esprit, qui vivent les mêmes sacrements, et qui, idéalement, même si c'est parfois moins le cas dans nos communautés, partagent des moments importants de leur existence pour essayer de vivre de manière spécifique, vraiment particulière, le don qu'ils ont reçu. C'est-à-dire que si je vis dans mon milieu professionnel, des relations avec mes collègues, c'est très, de bonnes relations, etc., c'est très bien, mais on ne vit pas forcément directement du Christ dans les milieux où nous sommes. L'Église, c'est l'endroit où nous cherchons à vivre pleinement cette dimension chrétienne.
À la fois dans les communautés, disons, les plus proches, hein, qu'on peut être amené à côtoyer, paroisses, mouvements, associations, mais ça dépasse largement ces frontières-là. C'est-à-dire que la communion universelle de l'Église, c'est une réalité aussi. On est en communion avec l'Église là qui est en Amérique du Sud, en Asie ou au fin fond de l'Afrique.
Donc c'est une conscience qu'on peut avoir sans y avoir été, et c'est ce que beaucoup peuvent aussi avoir comme expérience de rencontre, ou même pour certains d'évangélisation, c'est-à-dire d'aller reconnaître que dans des personnes très éloignées, dans des cultures très éloignées des nôtres, le Christ peut aussi se rendre présent. Et donc il y a cette dimension à la fois très proche de nos relations directes, et toujours cette dimension universelle qui est celle d'une révélation qu'il a... celle que nous considérons comme la plus haute possible. Dieu s'est révélé en personne dans le Christ par cet esprit, et ce don est universel.
C'est assez troublant, quoi, de se dire que le dimanche, on lit tous les mêmes textes à quelques heures près, parce que les fuseaux horaires ne sont pas les mêmes. C'est ça aussi l'universalité de l'Église.
C'est ce que tient effectivement particulièrement l'Église catholique, en essayant de tenir l'unité et la diversité de toutes ces communautés, mais c'est un signe qui est beau, enfin, de se dire effectivement, on ne vit pas juste parce que autour de nous, on a rencontré quelques dizaines de personnes avec qui on a des accroches sociales ou autres, mais de se rendre compte que ce don de l'esprit est donné à tous, que nous n'en sommes pas les seuls dépositaires, et parfois le décentrement est d'autant plus beau et d'autant plus riche parce qu'on voit tous ces visages, toutes ces cultures qui sont appelées à nos côtés, et nous convergeons ensemble vers un but que personne ne possède à lui tout seul.
Ça fait de nous des frères, mais ça, c'est un mot ou c'est une réalité ?
C'est un objectif, plus ou moins vécu, là où nous en sommes de nos existences. Il y a des communautés, en dehors des communautés paroissiales, de communautés de vie, où il y a cette fraternité qui s'exerce. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'emblée dans une situation facile de proximité avec les autres, mais que le mode de vie que l'on se donne, c'est ce que vivent des communautés de vie, ce que vivent des religieux, des religieuses, c'est d'exercer, d'apprendre à connaître cette fraternité, même si le frère n'est pas toujours celui qu'on voudrait avoir à ses côtés.
Et quelle est la différence entre la façon dont l'Esprit Saint fait de nous des frères et la fraternité qui est inscrite sur les mairies ?
C'est pas complètement différent, il ne s'agit pas de dire qu'il y a une fausse fraternité, simplement nous reconnaissons que la fraternité définitive entre êtres humains doit venir d'un don qui est celui de notre Créateur. C'est-à-dire que nous avons en nous cette image de Dieu que nous cherchons à faire vivre, à faire connaître, et qui crée une fraternité dont on voit que dans la manière dont elle se vit, dont elle se partage. Elle ne peut pas juste être une fraternité, disons, horizontale. Nous sommes frères parce que nous sommes appelés à rencontrer le même Père.
Dans l'Église, Jérôme Moreau, est-ce qu'il est encore question de temple, notamment de temple de l'esprit ?
C'est une expression importante, effectivement, chez Paul. Dans le judaïsme, jusqu'à l'époque de Jésus, ou en tout cas juste après, jusqu'en 70, le lieu central dans lequel on peut entrer en relation avec Dieu, c'est le temple dans lequel on peut effectuer des sacrifices à Dieu. Donc c'est l'endroit où l'on peut être en présence autant que possible de Dieu. Avec l'avènement du christianisme et en même temps la destruction du temple de Jérusalem en 70 par les Romains, il a fallu penser les choses autrement, et en tout cas du côté des chrétiens, l'important, l'essentiel a été de reconnaître que le temple dans lequel Dieu se rend présent, c'est d'abord la personne du Christ. C'est en lui que Dieu s'est manifesté de la manière la plus présente qui soit dans notre monde, dans notre humanité. Et à sa suite, par ce don de l'Esprit dont nous avons parlé déjà de ces quelques derniers jours, nous sommes tous amenés à être ce temple de l'Esprit, et l'Église doit l'être, elle, de manière commune.
Ça, c'est une révolution quand même.
Complètement, on ne s'en rend plus compte maintenant parce que ça fait déjà 2000 ans, mais c'est un bouleversement religieux qui est de dire, voilà, Dieu va se rendre présent dans chaque personne potentiellement, dans un don de l'Esprit. Et Dieu est bien là, il n'y a plus des médiations étranges, enfin qui nous paraissent maintenant très étranges, que sont les sacrifices, par leur violence, par le sang, etc. Dieu peut être présent effectivement maintenant, et chacun est responsable d'être ce temple de l'Esprit pour le monde, et l'Église l'est de manière collective comme témoignage pour le reste de l'humanité.
Est-ce que ça remet en cause ou ça interroge, disons, la notion de sacré, de profane, comme s'il n'y avait plus de frontières ?
Absolument. La question qui est la notion qui est le plus mise en question, c'est la notion de sacré, c'est-à-dire de séparation. Dans les temples grecs, dans le temple juif, il y a des espaces bien définis dans lesquels on entre, on n'entre pas. Et le christianisme, en fait, a mis en avant de manière extrêmement forte la notion de sainteté à la place de la notion de sacré. C'est-à-dire que si on sacralise trop la vie chrétienne que l'on mène, la liturgie parfois d'une certaine manière, il y a un risque de recréer une distance là où en fait Dieu appelle à se rendre proche, présent, et ce qu'il nous demande c'est d'être saint comme lui est saint, et c'est-à-dire d'entrer dans cette relation profonde. Donc, les sacrements, la liturgie sont des médiations très importantes, mais il y a parfois une tentation qui est de resacraliser les choses en disant, on a perdu le sens du sacré, il faut le retrouver, attention à ne pas dans certains cas, ajouter des choses qui en fait vont être des écrans ou des mises à distance, là où Dieu veut se rendre le plus présent qui soit dans les sacrements, dans l'Eucharistie par exemple.
Et avec l'Esprit, il se rend, on ne peut plus proche.
C'est ça, on parle d'Esprit de sainteté, c'est pas par hasard, c'est cet Esprit qui nous met en relation avec lui, qui nous fait vivre de sa vie, hors sa vie, et amour sous un angle, sainteté sous un autre. Ce sont deux choses qui se rejoignent.
Enfin, pour conclure, Jérôme Moreau, est-ce qu'on peut dire que l'Esprit Saint nous donne des talents ? Ou en tout cas nous aide à découvrir ce qu'on a déjà ?
Alors, au sens général du terme, oui, pour commencer. Dans la mesure où il nous permet de vivre pleinement de cette vie à laquelle nous sommes appelés, eh bien, il fait potentiellement remonter en nous des choses meilleures. On parle plus spécifiquement dans l'Église de ce qu'on appellerait des charismes, c'est-à-dire un terme qui veut dire en fait des dons, des grâces qui sont données, et quelque chose dont on parle à l'intérieur de l'Église, c'est-à-dire qu'il y a des charismes pour la communauté. Quelqu'un peut avoir un talent particulier ou une grâce particulière qui pourra rejaillir. Ça peut être des grâces d'enseignement, ça peut être des grâces de ce qu'on appelle, ce que Paul appelle de prophétisme, c'est-à-dire de prononcer des paroles qui vont guider, orienter sur le choix d'existence. Ça peut être dans certains cas des charismes de guérison. Toutes ces choses sont données par l'Esprit. Alors à discerner pour être sûr que celui qui parle prophétise ou ne prophétise pas, qu'un don de guérison est un vrai don de guérison. Mais ce qui est important, c'est de bien voir que quand l'Église parle de charisme, elle en parle pour le bien de la communauté. Donc personne ne peut s'arroger un charisme. On se dit, voilà, j'ai ça, je le fais pour moi, pour mon propre compte.
Et puis, il y a peut-être des charismes beaucoup moins spectaculaires que ceux que vous venez de citer. Des choses beaucoup plus simples, mais qui au quotidien changent la vie des gens et peut-être changent la vie du monde.
Donc ça, c'est le sens, disons, moins technique du terme. Là, c'est ce que je présentais, c'est le sens technique dans l'Église qu'on appelle charisme. Le sens premier, c'est ce que effectivement nous sommes amenés à vivre de manière ordinaire, c'est-à-dire que même dans l'Église, tout le monde n'est pas prophète, enseignant ou guérisseur. Donc nous sommes amenés dans la vie de tous les jours, effectivement, à faire vivre d'une manière ou d'une autre cet amour que Dieu nous donne, et ça peut être par chacun des qualités que nous avons, de l'endroit où nous nous trouvons, des occasions qui nous sont données. Et l'Esprit, effectivement, vit là. Il ne vit pas que derrière les portes de l'Église.
Un très grand merci, Jérôme Moreau, de nous avoir accompagnés dans ces réflexions, dans cette série Halte spirituelle. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université catholique de Lyon, spécialiste du judaïsme et du christianisme du 1er siècle. Encore merci à vous et merci à Nicolas Fournel qui était à la technique.